Pourquoi accordez-vous une importance aussi cruciale à ce moment, à cette proclamation, Jean-Claude Milner?
Je crois le dire quelque part, le légendaire français présente volontiers la France comme le pays des droits de l'homme. Et à mes yeux, je défendrais plutôt la thèse qu'elle est le pays des droits du citoyen. C'est-à-dire que, comparé aux révolutions, à la révolution états-unienne, où ce sont les droits de l'homme qui sont mis en avant, et où on en déduit en quelque sorte à la fois des human rights, des droits humains, et des civil rights, à savoir des droits civiques, la formulation française met en place deux supports différents de droits, qui sont l'un l'homme et l'autre le citoyen. Et si on prend au sérieux, et c'est quelque chose qui est maintenu, c'est-à-dire que la première déclaration de 1789 va conserver la formulation droit de l'homme et du citoyen dans les déclarations, la déclaration ultérieure, notamment celle de 1793, qui est à bien des égards différente, mais pas sur ce point. L'émergence de la figure du citoyen comme support de droit et la figure de l'homme comme support de droit pose la question de la relation et de la différence entre droit de l'homme d'un côté et droit du citoyen de l'autre. Il me semble, c'est mon interprétation, que ça n'est pas tout à fait une table rase. C'est-à-dire que quand les révolutionnaires réfléchissent aux droits du citoyen, ils ont derrière eux une réflexion qui dure depuis plus d'un siècle sur ce qui reste au sujet dans la monarchie absolue. Est-ce que ce qui lui reste comme droit est suffisant? Et dans cette réflexion-là, les droits de l'homme n'ont pas forcément toujours joué un rôle de référence. Donc il y a une réflexion autonome sur les droits du sujet politique qui va peu à peu se cristalliser, va devenir une affirmation des droits du citoyen. Et la constitution d'une figure comme celle du citoyen est matérialisée par le fait que c'est le terme qui va être employé, on s'appelle citoyen, citoyenne, ça n'est pas du tout un petit détail. Ces droits du citoyen sont, à mes yeux, j'insiste beaucoup là-dessus, d'une nature différente des droits de l'homme, mais l'hypothèse de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est qu'ils ne peuvent pas entrer en contradiction. Autrement dit, les droits du citoyen ne peuvent pas contredire les droits de l'homme. Ce ne veut pas dire qu'ils soient déduits des droits de l'homme. Je prends volontiers la comparaison du maître étalon, c'est-à-dire que les maîtres dont on se sert dans la vie courante sont rapportés au maître étalon. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une relation de déduction logique de l'un à l'autre. Alors, à mes yeux, c'est un déplacement très important dont il n'est pas certain que la pensée politique de langue française ait tiré toujours les conséquences, mais c'est malgré tout un déplacement très important qui conduit, par exemple, à la possibilité qu'aujourd'hui, sous nos yeux, on puisse faire appel, concernant le problème des migrants, on puisse faire appel à des droits qui ne sont inscrits nulle part. À propos d'individus qui ne sont citoyens de nulle part, puisque, y compris dans leur propre pays, leur statut de citoyen leur est refusé. L'idée qu'il y ait des droits qui puissent n'être inscrits nulle part et pourtant être valides, et qui soient des droits qui commencent à être valides dès l'instant que l'être est né, les hommes naissent et demeurent, etc., donc dès le moment de la naissance, avant même que la première parole soit prononcée, c'est à mon avis une idée très forte, mais qui ne prend toute sa force que si on la met en relation de contraste avec des droits qui sont des droits du citoyen, qui sont aussi importants, d'une nature différente, et qui, eux, ne valent que s'ils sont inscrits explicitement quelque part. Des droits du citoyen, en quelque sorte, non écrit ou non exprimé, ça n'a pas de sens.
Oui. Patrice Guénifet.
Parfois, je trouve vos analyses un peu paradoxales. Je pense que c'est un secret plaisir chez vous de proposer des analyses paradoxales. Personne ne s'est jamais réclamé de la Déclaration des droits américaine, sauf les Américains. C'était une Déclaration des droits à usage purement local et qu'il l'est resté. Jamais aucune révolution dans le monde, jamais aucun mouvement de libération ne s'en est réclamé. En revanche, cette déclaration liée aux droits du citoyen française a eu une postérité quand même incroyable. Et encore récemment, dans les contre-révolutions des printemps arabes, puisque la révolution était au pouvoir, en l'occurrence dans ces pays, néanmoins, on a eu des références à la Déclaration des droits de l'homme et à 89. Donc, la thèse que vous soutenez est un paradoxe, c'est-à-dire que le vrai événement universel, et c'est pas franco-français de dire ça, c'est tout simplement la réalité, c'est la Déclaration des droits française, parce que c'est elle qui a pesé sur l'histoire, pesé sur la démocratie. Alors, droit de l'homme, droit du citoyen. La Déclaration a été conçue autour de la figure de la loi, parce que ce qui fait le lien entre les droits innés de l'homme et les droits du citoyen, c'est la loi. Et effectivement, dans la tradition française, mais au fond la Déclaration a échappé à ses concepteurs très vite, c'est l'idée que il n'y a de droit que garanti par la loi, c'est-à-dire dont les conditions d'exercice sont fixées et limitées par la loi. Ce qui était le moyen de réconcilier, dans le débat de l'époque, les deux discours des droits et des devoirs. Et très maladroitement, la Convention thermidorienne a essayé de juxtaposer une déclaration des devoirs à une déclaration des droits. Donc, très tôt, on l'a envisagé comme ça. Mais la Déclaration des droits a évidemment échappé à ses concepteurs dès le XIXe siècle. Et cette philosophie des droits est devenue la philosophie même de la démocratie. Et si bien qu'une déclaration qui avait été rédigée pour terminer la Révolution, en l'associant à l'idée de loi, eh bien, est devenue le principe révolutionnaire même de la démocratie au travail sur elle-même et d'une dynamique d'extension permanente des droits.
Mais est-ce que précisément la nouveauté n'est pas celle-ci ? On est, à partir de la Révolution française, citoyen en tant qu'homme. Athènes, on était citoyen en tant que membre d'une caste, une certaine là, en tant qu'homme, ce qui veut dire que les pouvoirs n'émanent pas simplement du peuple, mais aussi de l'humanité. Ils s'exercent au nom de l'humanité, ils s'accomplissent sous la surveillance de l'humanité, et comme l'a écrit Robert Le Gros, une loi qui serait contraire au principe d'autonomie de l'homme, par exemple qui abolirait la liberté de la presse par l'instauration d'une censure, au principe d'égalité des conditions, qui interdirait la pratique d'une profession à certains groupes, au principe d'indépendance individuelle, qui conférerait une autorité au pouvoir qui échappe à tout contrôle, eh bien, elle serait considérée comme antidémocratique, alors même qu'elle pourrait être votée par la majorité. Est-ce que c'est pas ça la nouveauté ? C'est-à-dire, tout d'un coup, on est citoyen en tant qu'homme, Jean-Claude Minet.
Oui, oui, c'est ce que j'exprime sous la forme de l'impossibilité de contradiction. Autrement dit, je ne considère pas que les droits du citoyen aient pour vocation d'exprimer les droits de l'homme, parce qu'ils sont d'une nature différente. Je considère qu'ils sont à rapporter aux droits de l'homme, et c'est d'ailleurs expliqué dans le très très tôt, c'est une fonction de vérification constante, une sorte, c'est ce que j'appelle un pouvoir tribunicien qui est accordé à chaque individu, chaque citoyen a le droit de vérifier si une loi, une décision de magistrat est conforme aux droits de l'homme. Donc il y a pour moi, je reviens toujours à cela, une différence radicale entre les deux, mais c'est cette différence qui fait que la comparaison des droits du citoyen avec les droits de l'homme prend un sens, que c'est pas simplement une sorte de ritournelle, de retour sur soi. Donc voilà. Alors je ne sais pas si ça répond à votre question.
Si, ça répond tout à fait à ma question. Votre relecture de la Révolution, pour finir, conduit précisément à une analyse cette nouveauté radicale qu'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prononcée par la Révolution française.
Pour moi, c'est cela, et c'est positivement ce qui, à la fin des fins, m'amène à dire que c'est l'événement qui mérite le nom de révolution. C'est à la fin des fins, c'est ça que je n'ai pas dit au début, parce que ça aurait été engagé la discussion, mais c'est pour moi, c'est cela. Et c'est la seule révolution qui ait fait cela, en quelque sorte, de son propre chef.
Non, j'allais dire, c'est la seule révolution qui instaure, au fond, la révolution permanente. Parce qu'à partir de la Déclaration des droits, aucune loi, aucun code de loi ne peut être tenu pour définitif. Donc une issue à l'américaine est totalement impossible en termes constitutionnels, parce que cette Déclaration des droits est, au fond, la réfutation par avance de tous les systèmes, de toutes les codifications qui pourront être adoptées.
Oui, ce que disait Claude Lefort, elle est en excès sur toute formulation advenue.
Exactement.
Très bien. Merci beaucoup, Patrice Guinifet et Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner, je rappelle le titre de votre livre, Relire la Révolution, publié aux éditions Verdier.